rouge pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Annie, il est 8h10 à Washington. Oseront-ils faire un bond en arrière ? Saisis par l'état du Mississippi, les 9 juges de la Cour suprême américaine se penchent à compter d'aujourd'hui sur la question du droit à l'avortement aux États-Unis. On décrypte dans un instant avec notre invité. On ira aussi en Haïti. Reportage auprès des équipes de MSF qui aident les femmes victimes de la violence inhumaine des gangs. Et puis en Martinique, Benoît Ferrand, une lueur d'espoir peut-être ?
Oui, le dialogue qui avait tourné court en Guadeloupe, on le sait, a pu s'établir en Martinique, notamment bien sûr à propos du sujet qui fâche, l'obligation vaccinale, une obligation qui pourrait éventuellement être adaptée localement.
Rendez-vous dans 15 minutes, Benoît, pour le journal de la première. Bienvenue à tous. Il faisait encore nuit noire ce matin à Washington quand une foule a commencé à se rassembler devant la Cour suprême des États-Unis. Bonjour Christophe Pagé.
Bonjour.
La plus haute juridiction américaine devant laquelle se joue peut-être aujourd'hui le droit à l'avortement. Elle se penche à compter de ce mercredi sur une loi du Mississippi et pourrait bien revenir à cette occasion sur sa jurisprudence qui garantit depuis 1973 l'IVG.
Oui, l'avortement à la croisée des chemins devant la Cour suprême, titre le Wall Street Journal. Une discussion historique, titre le Boston Globe, au-dessus d'une photo prise hier soir devant la cour où des militants ont écrit en lettres lumineuses « L'avortement, c'est la liberté ». Seconde photo, une femme et un autre genre de pancarte, toujours devant la Cour suprême, priaient pour interdire l'avortement. De fait, rappelle le journal, le dossier arrive devant une cour à majorité conservatrice, 6 contre 3, transformée par 3 nominations de Donald Trump qui voulait mettre en place des juges opposés au droit à l'avortement.
Le Washington Post, lui, se penche sur l'histoire de l'accès à l'avortement au Mississippi, l'État qui est aujourd'hui au centre du dossier, Christophe.
La première clinique a pratiqué des avortements, a ouvert en 1975, mais au mi-temps des années 80, des militants anti-avortement ont commencé à poser des bombes dans ces cliniques et menacer les médecins. Au début des années 90, seule une poignée pratiquait encore l'IVG dans l'État. Aujourd'hui, note le journal local de Clarion Ledger, il ne reste plus qu'une clinique. Beaucoup de ces obstacles pour empêcher les femmes d'avorter mettent leur santé en grand danger, rappelle un spécialiste. Et la décision de la Cour suprême pourrait avoir un effet dans tout le pays, titre USA Today. 9 États avait interdit l'avortement avant qu'il ne soit garanti en 1973. 8 ont mis en place des interdictions qui prendront effet si la Cour revient sur cette décision de 1973. Et au moins 14 ont, eux, voté des lois protégeant le droit à l'avortement. Bref, estime USA Today, si la Cour suprême revient sur ce droit, cela créera différents niveaux d'accès dans le pays en fonction de l'État.
Et pour aller plus loin, on est en ligne à présent avec une spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Bonjour Anne Desine.
Bonjour.
Un professeur émérite à l'université Paris-Nanterre, une législation à plusieurs vitesses en fonction des États. C'est donc ça qui est en jeu aujourd'hui ?
C'est un peu plus que cela, parce que c'est déjà la situation. Si l'on schématise, tous les États dirigés par les Républicains et le Sud, la ceinture de la Bible, ont déjà terriblement réduit le droit à l'avortement. Alors, il existe sur le papier, parce que la jurisprudence Roe et la jurisprudence Casey de 1992 sont toujours sur le papier, mais dans la réalité, là, ça vient d'être dit, il y a par exemple une seule clinique dans le Mississippi, et c'est le cas de beaucoup des États du sud des États-Unis. Là, ce qui se joue, c'est pire, parce que s'il y avait un revirement de jurisprudence, tous les États républicains interdiraient carrément l'avortement.
Concrètement, hein, que l'on comprenne bien, le Mississippi demande à la Cour suprême de revenir sur sa propre jurisprudence, celle de 73.
Oui, il a tout simplement adopté une loi qui limite, donc qui interdit l'avortement après 15 semaines, ce qui est en violation ouverte des deux précédents que l'on a mentionnés. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une juridiction de première instance, puis une cour d'appel, ont dit « Ah ben non, 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 vous ne pouvez pas faire ça » et a suspendu l'application de la loi. Mais le Mississippi s'est accroché et, alors qu'il n'y avait pas besoin d'intervention de la Cour suprême, a demandé à celle-ci d'accepter l'affaire. Et c'est là qu'on voit qu'elle est de plus en plus à droite. Il suffit que 4 juges votent pour qu'une affaire soit acceptée. Il s'en est trouvé 4, que j'appellerais volontiers de frénétiques, décidés à en finir avec le droit à l'avortement, qui ont décidé de prendre l'affaire. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui.
Malgré tout, parmi ces 9 juges de la Cour suprême, il y en a aussi qui sont soucieux de conserver, de respecter la jurisprudence telle qu'elle est et de ne pas aller forcément à l'encontre de l'esprit des Américains. Est-ce que cela pourrait peser sur la décision ?
Oui, effectivement, le président de la Cour, lui, est ce qu'on appelle un institutionnaliste. Il est attaché à respecter la règle du précédent, stare decisis, mais il est aussi attaché à préserver la crédibilité et la légitimité de la Cour. Or, on voit bien que si un précédent qui dure depuis 50 ans disparaît des livres du jour au lendemain, c'est bien parce que la composition, la philosophie, l'idéologie des juges qui ont remplacé les juges antérieurs joue un rôle. Donc, en fait, on en a trois qui certainement veulent en finir avec le droit à l'avortement. Si le Chief Justice, qui n'est plus en situation de juge pivot depuis que Barrett a été nommé, réussit à convaincre soit elle, parce qu'elle est très opposée à l'avortement, mais elle est un petit peu légitimiste, elle est institutionnaliste comme lui, soit convaincre Barrett, soit convaincre le juge Kavanaugh, qui lui aussi est en faveur de la règle du précédent, peut-être qu'il y aura une certaine limitation des dégâts. Mais de toute façon, quelle que soit la décision, on va continuer, on étant la juge, va continuer de grignoter le droit à l'avortement. Il sera de plus en plus difficile avec les délais de réflexion, l'autorisation des parents, etc. L'obligation que les médecins remplissent un nombre de conditions de plus en plus grand. Donc il sera de plus en plus difficile dans les États républicains d'obtenir un avortement. Alors que c'est jamais une partie de plaisir et que parmi les amis de la Cour, ces pétitions qui sont envoyées aussi bien par des économistes, des psychologues, on montre que l'accès à l'avortement a amélioré la santé des femmes, la santé des enfants, a amélioré tout un tas de choses et c'est ce sur quoi on risque de revenir s'il y a un revirement de jurisprudence.
Très vite, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les actions de la part d'un camp ou de l'autre, est-ce que cela peut avoir une quelconque incidence sur l'institution? Est-ce qu'ils exercent des pressions véritables sur la Cour suprême?
Mais il est certain, quand on est juge, on ne peut pas ne pas regarder tous ces gens qui défilent. Alors, c'est très bien organisé, parce que le lobbying et les manifestations aux États-Unis, c'est bien encadré avec des petites barrières, etc. Mais à chaque fois qu'il y a eu des affaires, on voit quand même des dizaines de manifestants avec d'énormes panneaux. Et puis, surtout, ce qui montre l'enjeu, c'est le nombre des pétitions amis de la Cour. Il y en a tellement, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y en a au moins 60 déposées par le camp anti-avortement. Alors, des groupes qui s'appellent pro-life, pour la vie, alors aussi bien des groupes catholiques, des groupes juifs, des membres du Congrès, des États, bien sûr, le Texas et 17 États, qui essaient de convaincre les juges. Regardez, on est nombreux, allez dans le sens qu'on vous demande.
Merci beaucoup, Anne Desine, spécialiste des questions politiques et juridiques américaines. Merci pour votre éclairage.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Plus de 2 400 000 personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes vivent avec la maladie, selon les dernières données 2020 de l'ONU-SIDA. Le VIH ne doit pas être oublié malgré le Covid. Ce 1er décembre est dédié comme chaque année à la lutte contre le VIH-SIDA. La recherche avance, mais il n'y a toujours pas de remède. Nicolas Avila, argentin de 28 ans, fait partie des 500 volontaires de son pays inscrits au protocole de test d'un vaccin mis au point par le laboratoire américain Janssen, un vaccin à usage préventif dont il a déjà reçu 3 doses.
Ils cherchaient des gens entre 18 et 60 ans, VIH négatif, des hommes ou des trans qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou avec des trans. J'ai appris qu'il y avait cette étude par les réseaux sociaux. Ils cherchaient des volontaires et je me suis tout de suite inscrit. Pour moi, il s'agit aussi de pouvoir prêter mon corps à la science pour qu'il y ait des avancées sur ce virus du sida dont les premiers cas sont apparus il y a plus de 40 ans. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de doutes, de fausses informations qui se sont propagées. Donc pour moi, c'est aussi un outil qui permet d'avancer des arguments dans ces débats. Dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est séropositif, et puis dans la communauté LGBT, il y a une très forte stigmatisation du VIH. Donc le fait de pouvoir démystifier tout ça et de permettre des avancées grâce à la science, c'est pour moi très important.
À propos recueilli par Mélissa Barra, Christophe Paget, la presse haïtienne se penche elle aussi sur la lutte contre le VIH dans le pays.
Oui, dans le Nord, Cap Haïtien a célébré la journée mondiale de la lutte contre le sida le week-end dernier avec un peu d'avance, c'est-à-dire aujourd'hui dans le National. Au programme, sensibilisation dans certaines écoles, affichage de banderoles dans la rue, distribution de préservatifs, tout cela organisé par la AIDS Healthcare Foundation. Cette directrice pour Haïti constate la douleur des personnes discriminées en raison de leur statut séropositif et exclues de l'accès aux services de soutien, de soins et de traitement dont elles ont désespérément besoin. Le journal rappelle qu'Haïti compte plus de 100 000 personnes infectées. Le Nouvelliste se penche de son côté sur près de 40 ans de lutte de l'ONG Zanmi La 60 contre le sida en Haïti, avec deux événements récents qui ont entravé la lutte contre le VIH, la terreur des gangs dans le bar Thibonite, où se trouvent trois des plus grands centres de lutte contre le sida et 70% des patients sous traitement, et puis la crise du coronavirus qui a entraîné une baisse dans la fréquentation des hôpitaux.
La violence des gangs qui complique l'accès aux soins et le travail même des équipes médicales, on l'évoque régulièrement ici. Les difficultés de Médecins Sans Frontières en Haïti, MSF, qui a ouvert en 2015 un centre de prise en charge des victimes de crimes sexuels, des crimes que subissent notamment les femmes enlevées par les bandes criminelles qui terrorisent Haïti. Amélie Baron.
La prise en charge des victimes de violences sexuelles était inexistante dans les hôpitaux en Haïti. C'est pourquoi MSF a ouvert sa clinique il y a 6 ans, tout en sachant combien le viol est un sujet tabou dans le pays.
Quand les gens de votre quartier savent que vous avez subi un viol, ils vous collent une étiquette. Ils vous pointent du doigt en se demandant « Ah, c'est pas elle qui a été violée ?» Face à ça, les femmes intègrent l'idée que si ça leur arrive, elles le garderont secret. Elles n'en parleront pas pour fuir la stigmatisation.
Le docteur Judith Fadoua est la responsable médicale de la clinique MSF. Aujourd'hui, elle soigne notamment les femmes qui ont été enlevées par les gangs.
C'est des mondes qui gagnent plusieurs agresseurs.
Ce sont des personnes qui ont eu plusieurs agresseurs. Certaines n'arrivent même pas à savoir combien d'hommes les violaient. Et quand on dit viol, non seulement il y a plusieurs agresseurs, mais ils violent de toutes les façons que l'on peut imaginer. On peut parler de mutilation, tellement ces femmes ont été traitées en objet. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient, les utilisant à leur guise, quand ils veulent, comme ils veulent.
Et la médecin confie que la gravité de ces violences affecte le personnel de MSF.
Dans le mois d'octobre là, et puis début novembre.
Les mois d'octobre et début novembre n'ont vraiment pas été faciles du tout pour le staff. Ce sont des histoires que jamais on aurait imaginé entendre. Ça a vraiment un grand impact sur le personnel. Ça n'est pas que les cas soient plus nombreux, mais c'est la première fois depuis que la clinique est ouverte que l'on entend ce genre de récits. Des choses que ces types font, on peut appeler ça de la torture. Cela oblige parfois le personnel à prendre un peu de recul. Après un cas de ce genre, l'employé prend un peu de temps pour se ressourcer personnellement, pour se reprendre, tellement les histoires sont traumatisantes. Aujourd'hui, les employés sont vraiment épuisés. À ce stade, imaginez-nous, après toutes les histoires que l'on a entendues depuis 5 à 6 ans, aujourd'hui, nous arrivons à être bouleversés par ces témoignages. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'un humain pouvait faire subir ça à un autre humain. C'est ce qui est choquant et dur. Et on se demande si on va continuer à entendre de telles histoires, si cela se pérennise, où allons-nous ?
Si bagaille s'arrêter côté nous parler.
Inquiète pour l'avenir de son pays, Judith Fadoua témoigne de la complexité du travail de son équipe auprès des victimes des gangs.
Vraiment, c'est bagaille que nous n'avons pas pu imaginer.
Vraiment, les choses que les survivantes nous racontent, on ne les aurait pas imaginées. Et ce qu'elles ont vécu rend difficile la prise en charge, car sur le plan psychologique, nous avons beaucoup à faire avant que ces personnes puissent reprendre leur vie, puissent à nouveau s'accepter.
Amélie Baron. Port-au-Prince, RFI.
Cette actualité haïtienne dont certains s'extraient en trouvant refuge dans une passion, elle, c'est l'écriture qui l'anime. Pierry-Anne Fenlon, étudiante en dernière année de médecine de Port-au-Prince, la jeune femme de 27 ans, remporte la 3e édition du prix du jury des jeunes écritures RFI en partenariat avec l'Agence Université de la Francophonie. Son texte intitulé « Renaissance », nourri de mythes haïtiens, s'est distingué parmi les plus de 400 œuvres en compétition. De passage dans nos studios hier après la mise des prix. Je lui ai demandé ce que cette distinction représentait pour elle.
Lorsqu'on m'a appelé et qu'on m'a annoncé que j'avais remporté le prix jury, au début, je n'y ai pas cru. J'étais très étonnée, mais lorsque j'ai réalisé que c'était pour de vrai, j'ai fondu en larmes. Pour moi, ce prix, c'est comme un feu vert. Je suis une personne qui aime l'écriture. J'écris depuis longtemps, mais je ne me suis jamais lancée de cette façon. Et là, avec cet essai qui a abouti, donc je me suis dit que c'est un point de départ, que je peux foncer, je peux aller plus loin, je peux même envisager d'écrire un roman. L'écriture, pour moi, c'est comme un moyen de survie. Lorsque j'écris, je peux me projeter dans n'importe quel type de réalité. Je peux être qui je veux, homme, femme. Je ne suis pas obligée de rester dans mon existence normale. Bien sûr, je ne dis pas que je n'aime pas ma vie. J'aime ma vie. Cependant, j'ai toujours ce besoin de créer quelque chose, de créer un autre univers dans lequel je me plais. Non seulement je me plais à créer l'univers, mais je me plais aussi à ensuite le consulter.
Et ce qui vous plaît particulièrement, ce sont les histoires d'horreur. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le texte primé aujourd'hui. L'histoire d'une sirène qui se découvre une passion pour la chair humaine. Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre en particulier ?
C'est le côté mystique. Et le fait aussi que dans ces histoires d'horreur, j'ai la possibilité d'y ajouter un peu de ma culture. C'est important pour moi.
Pierre-Yann Fénelon, lauréate du prix des jeunes écritures, la littérature haïtienne, dont on parle aussi ce matin dans la presse du pays, Christophe.
Elle est à son âge d'or, se félicite à Ibo Post. Les publications, les reconnaissances, les prix littéraires pleuvent ces dernières années à l'international. Problème, ce sont des éditeurs majoritairement français et canadiens qui détiennent une grande part du patrimoine littéraire haïtien. Pour cause, en Haïti, d'un manque d'attractivité des maisons d'édition, d'une faiblesse de la demande, d'un manque de moyens des imprimeurs, libraires, diffuseurs. Ibo Post déplore une absence totale d'une politique autour du livre et de la lecture et se félicite que des maisons d'édition se battent pour rapatrier la littérature haïtienne en rachetant des droits ou en se valorisant grâce à des projets de coédition. Un travail qui devra être, selon le journal, accompagné d'un effort soutenu de l'État haïtien.
Christophe Paget, pour la presse. Il est 14h26 ici à Paris. Le journal de l'Outre-mer avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Mickaël.
Est-ce que ce serait une première lueur dans cette obscurité en Martinique ? Le ministre des Outre-mer n'a pas écarté la possibilité d'une adaptation locale de l'obligation vaccinale.
Oui, le dialogue qui avait tourné court, on s'en souvient, en Guadeloupe, a pu s'établir en Martinique entre Sébastien Lecornu et l'intersyndical local, notamment, bien sûr, à propos du sujet qui fâche, l'obligation vaccinale pour les soignants et autres pompiers. Une obligation qui pourra éventuellement être adaptée localement. Écoutez le ministre des Outre-mer.
J'ai indiqué ce matin que le principe de réalité sociale et sanitaire s'imposerait à tous les partenaires. Donc j'ai des partenaires qui me disent « Mais monsieur le ministre, vous ne vous rendez pas compte, cette loi ne sera pas applicable ici en Martinique. » Ce ne sont pas des gens qui me demandent l'abrogation de la loi. C'est très important. Ce matin, personne ne m'a dit « Monsieur le ministre, il faut repartir en abrogeant la loi. » D'ailleurs, pardon, mais c'est le Parlement qui abroge les lois, ce n'est pas les ministres. Bon. Non, les partenaires, ils ont dit « On vous demande de regarder de près la situation dans chaque établissement. » Les EHPAD, le CHU, les différents centres hospitaliers, et vous allez voir que la loi sera difficilement applicable. Et moi, je leur ai dit, écoutez, pardon, mais dans un dialogue social responsable, c'est vous qui représentez les agents, c'est vous qui représentez les différents métiers, et donc, dans le cadre de l'atelier santé, travaillons à ce principe de réalité et à cette application de la loi.
Voilà pour la position gouvernementale. Écoutez maintenant la réaction de Serge Haribaud, membre de l'intersyndicale. Il est au micro de Pierre-Yves Honoré.
La question de l'obligation vaccinale, la question du pass sanitaire est aujourd'hui à l'étude dans la commission avec le regard que nous avons en tant que Martiniquais, les autorités politiques, la CTM, les maires et nous-mêmes, intersyndicales, qui représentons en grande partie les travailleurs, mais de façon plus globale vis-à-vis des problèmes qui sont posés, des problèmes que la population se pose. Nous avons aujourd'hui à décliner comment nous allons prendre et faire face avec nos moyens à cette histoire de protection de la population et assurer la continuité des soins. C'est le challenge qu'il y a dans cette commission.
Tout le travail reste à faire en commission, quoi.
Le travail reste à faire parce que nous n'avons pas ce document déjà tout écrit. C'est nous qui devons l'écrire aujourd'hui.
A signaler, Michael, que le compte rendu par l'intersyndical de sa première rencontre avec le ministre des Outre-mer a été accueilli très très fraîchement par une partie de la base militante qui a poussé des cris hostiles. Eux réclament toujours l'abrogation de l'obligation vaccinale, abrogation pure et simple. Bon après-midi, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci aussi à Olivier Roux qui est à la réalisation aujourd'hui de notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques à réécouter sur RFI.fr, RFI Pure Radio. À demain.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Je n'ai pas chimarelle, non.